incroyable le timing, encore une fois, parce que quand je suis prêt à enregistrer, tu sais, je pars... moi, alors, je recommence. D'abord, bonjour. Je me lève. Savez-vous c'est quoi mon réveil matin? C'est l'hôtel en face. L'hôtel, puis les apparts qui montent juste l'autre côté de la rue, ça part à 7 heures. C'est que pendant 2 semaines, il n'y a rien eu. Quand il était rendu à l'étage, comme à mon étage, ça fait quand même plusieurs mois, je te dis que ça clignait à journée longue. Puis après ça, à un moment donné, c'est monté. Puis là, quand c'est rendu au-dessus de toi, c'est 38 étages, tu sais. Quand c'est rendu au-dessus de toi, t'entends plus rien. Ou en tout cas, t'entends très peu. Mais là, ils ont commencé à faire de la finition, tu sais, des trucs autour des fenêtres. C'est que là, ils repartent d'en bas. C'est que là, ils sont vraiment, depuis quelques semaines, à ma hauteur. C'est que la construction, ça part à 7 heures. C'est que je me lève à 7 heures, à peu près, tu sais. Anyway, quand même, je voudrais rester couché, cling-clang, tu sais. Ça fait que là, la musique que vous entendez, c'est pas la musique que je pars juste quand je starte mon dictaphone, qui est l'application dans l'iPhone. Mais par habitude, c'est la musique que j'ouvre le matin en me levant, puis c'est sur cette musique-là que je lis. Puis là, à un moment donné, paf, ou des fois, j'ai mon sujet déjà. Alors, voilà pour la mécanique. Alors, bon matin tout le monde. Ce matin, je vais vous parler des fans. On parle souvent des artistes, mais je vais vous parler des fans de tout genre, de tout acabit. D'abord, je commence avec une définition. À un moment donné, Mike m'avait dit, j'avais demandé une question, j'avais dit, t'as combien de followers sur Twitter? Puis il m'avait dit, 100... Je me souviens plus des chiffres, je sais plus combien il y en a, j'ai pas regardé. Mais il m'avait, mettons là, je recommence, je dis, hey, t'as combien d'abonnés sur Twitter? Puis spontanément, il m'avait répondu, 10 000 de trop. Mais je sais pas si c'était 10 000, je sais plus, là. Mais bref, je trouvais ça très drôle comme réponse. Puis ça m'a tout le temps interpellé, puis j'ai toujours voulu faire un sujet de ça. Et le voici ce matin. Donc, le point de départ, c'est... Vous savez que je suis sur YouTube à côté, comme un malade. Et puis j'écoute des affaires très variées, mais entre autres, du Kiss. Tu sais, quand j'ai une entrevue avec Paul Stanley, telle affaire. Et Paul Stanley, pour parler de lui, je le suis sur Twitter, pas les autres. Mais je suis sur Twitter, Paul Stanley, qui fait une utilisation de Twitter qui est vraiment 5 étoiles. Pour une rockstar là, très connue, c'est super intéressant ce qu'il fait. C'est-à-dire que c'est très personnel. Des fois, il fait des statements par rapport à des événements de l'actualité. Il va photographier son spaghetti, sa pizza qu'il a faite, qu'il fait des trucs. Après ça, ben, une photo backstage, une photo dans l'avion. Tu connais ce gars-là. Je pense que les médias sociaux, puis là-dessus, je suis pas bon. Je suis très, très bon à le faire dans Angle Mort, mais dans les médias sociaux, j'ai jamais... Caroline, que j'ai jamais été bon, tu sais, pour avoir la même transparence. Puis quand tu essaies d'avoir... J'ai consulté, moi, du monde, des experts, des agences, etc. Puis ils sont tous bons pour te dire comment utiliser l'outil. Mais ils sont jamais vraiment bons pour te dire « fais ça ». Alors, ils vont donner les grandes lignes. « Ouais, c'est drôle, fais des concours. » Ben oui, ben oui. Mais il n'y a pas vraiment d'experts. Ils doivent en avoir, mais ils ne sont pas connus. Ils ne sont pas plus... Je ne sais pas. Mais il n'y a pas d'experts qui peut dire, mettons, « OK, j'ai regardé, là. » Moi, je vous le dis, je suis intéressé, là. Si vous connaissez du monde de même, là. Des gens qui diraient, « J'ai regardé ce que tu fais, là. J'ai regardé ton Instagram, tout ça, là. Puis voici ce qu'il faut que tu corriges au niveau du contenu. Lâchez-moi avec... poste à 8 heures, puis on s'en claque. Qu'est-ce qu'on dit? Ça m'énerve. Ça fait qu'en tout cas, bref, ça, c'est ma petite récrimination, mais pour être... Je suis actif, mais je suis pas bon. La place où je suis vraiment moi, c'est Angle Mort. Mais à la rigueur, Chef Bois-Larcuit, ça l'est plus. Pas vrai. Dans le sens que c'est entièrement moi sur un autre aspect, si on veut, là. Alors, donc Paul Stanley, lui, fait une utilisation... Puis pas exagéré, là, mais juste comme, tu sais, Carlin, c'est pas compliqué pourtant, tu sais, c'est comme, il raconte son quotidien, très, très hot de chanteur de Kiss ou très, très, complètement banal que j'ai fait un spag, tu sais. Moi, je trouve que c'est bien utilisé. Et donc, j'écoute des vidéos de Kiss, de toutes sortes d'affaires, leur entrée du dernier show qu'ils ont fait, que j'ai vu 2 fois, c'est que là, mettons, à Budapest, là, je vois ça, c'est que là, je check. Bon, évidemment, c'est la même chose, mais c'est un autre aréna, tu sais. Quand t'es fan, t'aimes ça, la coulisse aussi. Bon. Puis là, j'ai vu... Le titre, c'était... l'entrée dans le bateau du Kiss Cruise par les quatre gars de Kiss. C'était récent, ça faisait un an ou deux. Alors, Kiss organise depuis maintenant, je ne sais pas, à peu près une dizaine d'années, une croisière, ça s'appelle le Kiss Cruise. Donc, des fans qui achètent des billets, puis là, c'est une croisière normale, mais chaque soir, il y a un show. Sur un petit stage, là, évidemment, c'est sur un bateau, mais... Ça fait qu'il y a un soir, c'est un show acoustique, un soir, c'est un show telle affaire, pas ça, il y a dans un autre local. Mais je dis chaque soir, c'est peut-être pas chaque soir, c'est peut-être carrément même juste un ou deux soirs. Mais les gars sont là sur le bateau, puis ils se mélangent au monde tout le temps, puis toute la patente, puis ils font ça chaque année. Et là, tu vois leur arrivée. Donc, sur le pont principal du bateau, tu vois les quatre gars qui s'en viennent un après l'autre, donc il y a quand même une distance entre chaque. Puis t'as une espèce de haie d'honneur, entre guillemets, de fans qui sont des gens qui ont acheté leur billet, qui sont sur le bateau, puis qui filment, puis là, qui crient « Hey, Paul Jean, salut! » Puis là, les gars font des poignées de main, tu sais, puis des high-fives, puis de la patente. Et là, maintenant que je connais Paul Stanley, puis que je vois quel est c'est quoi le genre d'individu, c'est un gars extrêmement sensible, qui fait de la peinture, d'ailleurs, et qui expose dans des galeries d'art, dont en Floride. Il expose à Boca Raton, ses peintures, des peintures de guitare, des peintures des autoportraits, des trucs... Puis Paul Stanley, c'est quelqu'un qui a une pensée très intéressante, qui est manifestement... qui est quelqu'un qui s'intéresse à l'actualité, qui est un lecteur, qui est... Tu sais, c'est pas Motley Crue. Motley Crue, là, ils ont sorti un livre qui s'appelle The Dirt, c'est leur autobiographie, tu sais, puis c'est vraiment juste des guenilles, là. C'est des vrais, vrais guenilles qui ont réussi par miracle, avec des bonnes tunes, là, j'en conviens, à devenir des superstars. Mais tu sais, c'est des tout croches, là. Vraiment, là, tu sais. Puis tu regardes Gene Simmons, qui a été un immense enchaîneur, qui l'avoue lui-même, c'était après chaque show. Dans son livre, là, ça s'appelle Kiss and Tell, il dit qu'il y avait un code, lui, avec les gars de la sécurité de la première rangée. Je sais pas c'était quoi, des gestes, etc. Puis il disait, mettons, là, dans ses gestes, pendant le show, là, c'était l'équivalent de dire... 4-22. Ça voulait dire ranger 4 sièges 22. Va dire à la madame, Monsieur Simmons aimerait ça vous voir après le show. Hôtel, ciao, tout le monde est content. Mais il prenait pas une goutte d'alcool. Il a presque pas bu de sa vie. Fait que tu sais, c'était pas genre... Tu comprends que Kiss, c'était pas comme le Rolling Stones où il y avait une anecdote qui circulait justement où leur gérant disait « Hey, la police s'en vient, the police s'en vient ». Puis là, ils ont dit, on va jeter la drogue dans les toilettes. Il dit, non, c'est Stuart Copeland. Puis, tu sais, c'était le groupe de police. Fait que, bref. Fait que tu connais un peu Paul Stanley se situe où. Puis tu regardes après ça les fans qui sont allés sur le bateau. Puis c'est ce que tu t'attends des fans de Kiss. C'est-à-dire, ils sont tout habillés en noir avec les Bermudas noirs. Puis que, tu comprends? C'est pas une rangée d'ingénieurs puis une rangée d'urgentistes. Là. C'est pas ça, là. Puis, je me suis toujours... J'ai toujours dit ça. Je me suis toujours penché là-dessus. Puis, je disais ça en farce à Dom Pack. Je disais, tu sais, Dom Pack, quand tu vends 100 000 billets pour un humoriste, là, c'est pas 100 000 architectes. Hein? Puis, c'est une réalité pour à peu près tout le monde. Il y a eu dans l'histoire certains humoristes qui attiraient une clientèle. Daniel Lemire, par exemple, jouait à Place des Arts. Il jouait au Théâtre Outremont. Un des seuls qui jouait au Théâtre Outremont. 800 places, bien plein. Il y a certains humoristes qui ont eu une clientèle, je dirais, plus instruite, un peu plus snobinarde, etc., suivie inévitablement par d'autres, mais dans l'ensemble, l'humour, c'est ce qu'on appelle un art populaire. Je veux dire, la crowd à McLeod, ils viennent en skidoo, là, on se comprend, là, ils viennent pas en char, tu sais, bon. Puis, ça, je veux dire, ça crée des vrais succès, là. On parle de gens qui ont eu des carrières, là, je vous nomme du monde. Puis quand t'arrives à Mike, c'est la même affaire. Ça joke sur Twitter. Le following de Mike, c'est un following populaire. C'est un following, tu sais, de jeunes qui travaillent sa construction. Comme on avait à Testostérone, hein? Même affaire. Mike l'avait très bien dit à Testo, je me souviens, il dit « Notre clientèle, c'est les jeunes qui sortent d'un bar. » Tabarouette. C'est exactement ça. Toute la gang qui était au Dagobert, qui était... C'était ça qui nous... C'était ça nos followers, tu sais. Puis qui étaient les fans. Puis il y en avait des nombreux. Mike les a gardés, tu sais. C'est que tu peux difficilement en humour avoir un succès si t'as pas... Maintenant, moi, ce qui me fascine, c'est comment tu deals avec ce crowd-là quand, à quelque part, c'est des gens avec qui t'as pas d'affinité personnelle. C'est comme si c'était un catch-22, c'est-à-dire que... Puis je vais, après ça, je vais tomber en politique. Vous allez voir qu'il y a une réalité très bien comprise par les politiciens, mais pour laquelle ils se bouchent les oreilles. Les humoristes font peut-être un peu pareil, mais en même temps, le profil des humoristes eux-mêmes, c'est des gens qui sont plus classe moyenne que... Il n'y a pas tant d'humoristes là, qui avaient le choix, comme François Bellefeuille, entre vétérinaire ou humoriste. C'est la minorité, tu sais. Puis c'est assez fascinant parce que il faut que tu deals avec des gens qui t'aiment à mort, mais avec qui tu n'as pas d'affinité personnelle. C'est-à-dire que Paul Stanley, là, la gang qui l'ont accueilli sur le bateau, là, c'est sûr, assuré que lui, s'il a le choix, un samedi soir, il ne s'en va pas avec eux autres. C'est sûr. Il ne va pas s'asseoir avec eux autres. Ils vont parler, il va être poli, il va faire un geste d'un professionnel avec ses clients. Mais ça, dans sa vraie vie, là, c'est pas vrai. Puis pour moi, c'est un peu un mystère de dire, coudonc, c'est des gens, ils sont attirés par ton travail et ton travail, c'est toi, parce que le propre d'un artiste, c'est d'être son propre produit. C'est... Je dis artiste, mais même, je dirais, gens des médias, en général, c'est très difficile, quand tu as une approche transparente, là, de dire que, voilà, j'ouvre le micro, c'est ma job, je ferme mon micro, c'est fini. C'est très difficile. En tout cas, chose certaine, quand tu fais des prestations live, quand tu as le malheur de faire un show live, de prétendre que tu peux faire déplacer des gens qui viennent te voir, comme plug mon show du 17 septembre au Jésus, fin de la parenthèse, bien, c'est que tu peux pas vraiment dissocier ce que tu présentes de qui que t'es. C'est toi que tu vends. Je disais ça, moi, comme gérant d'artiste. Je disais, moi, mes produits, c'est des gens. Je peux pas tout à coup dire à Morancy, ouais, enlève ce texte-là, écris-en un autre, c'est de la merde, du jour au lendemain. Comme je pourrais faire avec des Nike. Si je vendais des Nike puis que l'étude de marché me dit, hey, on a regardé puis on vend deux fois plus de Nike rouges que les verts. Bon, ben parfait. À partir de demain, je veux que de l'usine, c'est des rouges qui sortent. C'est tout, là. Je deal pas avec ma paire de Nike. Mais oui, tu deals avec une personne. Et ça m'amène aux politiciens comme Éric Duhaime. Éric Duhaime sait pertinemment que les anti-vaccins sont tous dans son camp. Or, il n'est pas anti-vaccin, il est zéro complotiste, rien de ça. Mais, étant donné qu'il a été la voix la plus forte anti-logo, ben n'importe qui est anti-vaccin et donc anti-mesure, donc anti-logo, c'est un peu genre, c'est le merry-go-round, là, c'est le carrousel là, des chevaux en bois qui tournent sur eux-mêmes. Ça fait que leur voix politique devient Éric. Pas parce que lui non plus ne croit pas au vaccin. Il est vacciné trois fois, Éric. Il dit. Mais quand est-ce que tu vas entendre Éric Duhaime dire « Ouais, non, mais là, moi, je suis pro-vaccin. » Puis toute la gang de gazés qui ne croit pas au vaccin, là, ça ne m'intéresse pas. Jamais. Jamais, parce qu'il y a une base extrêmement forte. Ça fait qu'il faut tout le temps que tu deals avec une réalité, mais personne n'en parle. Il n'y a pas un artiste qui parle de ce que je vous dis. Il n'y a pas un politicien qui parle de ce que je dis. C'est-à-dire... Parmi les gens qui me permettent de monter, il y a inévitablement du monde avec qui j'ai aucune affinité, voire même que je méprise. Puis là, je garde mes mots, j'exagère rien. Il y a inévitablement, dans tout le monde qui a énormément de succès populaire, donc un politicien a besoin que plein de monde vote pour lui, un artiste, idéalement, a besoin que plein de monde le suive, etc. Puis je parle par populaire, je parle pas des chiffres d'angle mort. Je suis content de mes chiffres, puis ça monte, puis on est dans le mille cake, là. C'est très bien, mais c'est pas 25 000 à chaque épisode. C'est pas Joe Rogan. Donc, vous me suivez? Joe Rogan, c'est un autre bel exemple. Joe Rogan qui a quelques millions de views par podcast. Pensez-vous vraiment que c'est comme wow, là, c'est tout là, c'est tous ceux qui ont voté Biden, là, qui vivent dans le Vermont, dans des maisons de millionnaires, c'est du monde qui vit dans des tours à Manhattan. Ben non, c'est col bleu à mort, à mort, à mort. C'est anti-vax, entre autres, parce qu'il faisait venir là, Malone puis des gens de douteux qui remettaient bon. Ça fait que c'est une véritable, là, je dirais, semi-hypocrisie qui existe dans les deux groupes où est-ce que personne ne va jamais blaster une partie de ses fans. Mais force est de constater que pour avoir des vrais chiffres, tu peux pas avoir... Alors là, vous allez me répondre, ben oui, mais je suis le premier à avoir déjà dit, c'est pas une phrase de moi, c'est une phrase de mon ancien coloc, Éric Mongeau, si on voulait que nos amis soient juste comme nous autres, on n'en aurait pas. Fine. Je vous parle pas de parfaite affinité comportementale, identitaire, si vous voulez. C'est pas de ça que je parle. Je fais juste dire qu'à un moment donné, il y a des gens pour qui vraiment tu te dis, Ça, cette personne-là, idéalement, j'y parlerais même pas, mais elle m'achète un ticket. Donc, merci à tous mes fans. Oui, merci pareil, j'ai bien compris. Mais ça reste, je trouve, une problématique. Je trouve que c'est une problématique. C'est-à-dire qu'un gars comme moi, qui a comme valeur très forte l'intégrité, c'est-à-dire de jamais, vous pourrez jamais, jamais, jamais de votre existence me dire, je t'ai entendu avec des amis dire ça, puis après ça, avec une autre gang te dit ça, puis à la radio te dit autre chose. Jamais. Alors, vous allez peut-être dire, ah, dans un de tes livres, tu sais, comme par exemple, dans Moi, si j'étais une fille, il y a des bouts que tout le monde me dit, hey, ça, je suis zéro, puis je me dis, hey, c'est même pas ça que je voulais dire. Fait que se tromper, oui, je me rétracte. Wow, j'ai fait une erreur. Quelqu'un récemment m'a dit, je vous ai fait un podcast sur la, une petite étude là, dans le Washington Post qui disait masculinité. J'ai mal traduit, bref. J'ai traduit ce qui était écrit, masculinité toxique. Ça, c'était ma mauvaise traduction versus autre chose. Par contre, le fond demeurait. C'était ce que je vous ai raconté dans cet épisode-là, le fond demeurait à 100%. Mais je me suis trompé dans les termes, puis quelqu'un me l'a écrit, je pense que c'est Francis, qui dit, hey Marc, il dit, j'ai relu ton truc, puis finalement, il ne parle jamais de ça. Bon, voyez-vous, ça s'appelle une erreur. C'est une erreur qui n'avait pas d'incidence, mais aurait pu avoir des incidences. Puis moi, m'excuser, ça me dérange zéro, puis dire merci, la même affaire. J'ai toujours remarqué que les gens qui avaient de la misère avec un avaient de la misère avec l'autre. Parce que l'ennemi commun, c'est l'orgueil. J'en ai pas. J'ai pas d'orgueil. C'est-à-dire que, oh mon Dieu, de quoi je vais avoir de l'air? Oui, j'ai une image, je suis soucieux du signal que j'envoie. Mais sérieux, là, moi, j'ai vraiment pas... la preuve, c'est que ce qui me fait rire le plus au monde, c'est quelqu'un qui rit de moi. Moi, des roses que j'ai reçues, là, vous avez aucune idée. Ça fait que tout ce côté-là, c'est pas vrai, là. J'empoisonne pas mon entourage avec « Oh mon Dieu, faites attention, moi je peux le dire, mais pas vous autres. » Non, non, non. Ça fait que c'est ça, je pense que ça vient de là, c'est que quand tu as une intégrité qui est très forte, il y a un côté qui est très bizarre de dire... Puis la personne qui porte le plus ça, c'est Éric Duhaime. Parce que Éric a vraiment dans sa base des gens extrêmement douteux. D'ailleurs, quand un de mes amis, Éric, avait fait l'annonce de certains candidats sur... Crescent, puis un de mes chums qui est passé, puis il dit que c'était les gros pick-up, puis c'était une clientèle qui n'avait rien à voir avec Crescent normal, etc. T'sais. Fait qu'il faut à quelque part qu'il fasse comme un peu fi de ça. Ça n'enlève pas son intégrité à lui par rapport à son propos, puis ce qu'il pense, ça, je peux vous le garantir. Droit comme une barre. Mais quand tout à coup tu vois que ça, hop là, et ça attire du monde avec qui j'ai pas vraiment de. Mais. Tu passes ça un petit peu en dessous du tapis. Ah, voilà, je voulais juste traiter de ça ce matin parce que c'est quand même une problématique qui confronte tout le monde, qui voit tout à coup des gens qui viennent puis que tu fais comme, hein, qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est ça. On fait quoi dans ce temps-là? Vous remarquerez que j'ai pas de... C'est pas un podcast de donnage de leçons, là. Zéro. Mais je voulais juste que vous dire que ça existe, puis les artistes et les politiciens le voient très bien, puis font comme si, à quelque part, c'est tout un grand groupe homogène, mais ce n'est pas le cas. Salut, bonne journée.